Dans l'actualité des idées aujourd'hui, le monde de Kamel Daoud, transgressif, audacieux, courageux à tous ses qualificatifs, on lui préfère celui d'indépendant, libre penseur, celui qui voit dans le français une langue d'infraction, de dissidence et de libération, déchaîne les passions chaque fois qu'il s'exprime. Sur la religion, la politique, Trump ou encore la condition des femmes, il a développé une vision singulière du monde qui nous entoure. Avec quelle grille de lecture, quelle sensibilité? Invité de cette grande table du lundi, l'écrivain et journaliste, donc algérien, Kamel Daoud, auteur de Meursault contre-enquête, prix Goncourt du premier roman en 2015 et de Mes indépendances, paru l'an passé, recueil de chroniques écrites pour le quotidien d'Oran, Le Point ou encore le New York Times, et auteur dernièrement de Zabor ou les psaumes, paru chez Actes Sud. Jusqu'à 13h30, il est notre invité. Vous pouvez l'écouter ou nous suivre sur le Facebook Live de France Culture. Et demain, mardi, allez l'écouter si vous le souhaitez à 18h30 jusqu'à 20h au petit auditorium de la Bibliothèque Nationale, de la BNF, pour sa masterclass littéraire « Pourquoi écrire ?» qui sera diffusée cet été. Bonjour Kamel Daoud.
Bonjour.
À propos du rôle de l'écrivain, et il en est question de l'écriture et de la fiction, dans Zabor, j'aimerais faire le lien avec Ilias Khoury qui était l'invité de la première partie de La Grande Table et qui écrit dans son nouveau roman « Les enfants du ghetto », les écrivains peuvent être capables de dévoiler la condition humaine, de dénoncer la répression, la torture, le sadisme et le meurtre. Ils deviennent des voyeurs, jouissant de ce qu'ils imaginent et de ce qu'ils décrivent. Est-ce que vous vous voyez en romancier voyeur?
Je préfère au mot voyeur le mot témoin. Ça a une charge un peu plus noble et c'est beaucoup plus... ça correspond beaucoup plus à comment je vois le métier d'écrivain. Vous savez, on a cette mythologie quand on écrit de vouloir changer le monde. On est poussé à défendre des libertés, à incarner des libertés. Et à défaut, quand on ne le peut pas, on devient le témoin de son propre monde, de son époque.
Si le romancier est témoin, le journaliste, il est quoi? Passeur?
Disons un commentateur d'actualité.
Commentateur, refuser d'être assigné à une identité, ne pas être là où on vous attend, penser y compris contre soi-même, elles sont là, vos petites guerres de libération, vos indépendances, Kamel Daoud?
Écoutez, l'indépendance est un grand culte dans des pays comme l'Algérie, dans des pays qui ont connu une guerre coloniale, une occupation, etc. Mais en même temps, c'est un enfermement, c'est une prison. L'indépendance, elle est valable pour le groupe dans sa totalité, mais c'est quelque chose qui interdit l'indépendance de l'individu, la naissance de l'individu. Autant chez vous, il y a un excès de jeu par rapport à un déficit du nous, autant de l'autre côté, en Algérie, au sud de la Méditerranée, il y a un excès du nous par rapport au jeu. Le jeu est interdit, l'individu est soupçonné, il est exclu, il est mis en marche, il est interdit quelque part. Et donc, il y a une nécessité d'affirmer et d'aider à la naissance de l'individu dans le monde dit arabe. Et donc, c'est ce que j'exprime, par le mot indépendance, mes indépendances, par rapport aux idées dominantes.
Est-ce que vous avez réussi, au fil de l'écriture, au fil des années, à visualiser, voire comprendre ce qui vous enferme, vous, Kamel Daoud? Quels sont ces murs qui ont été dressés autour de vous? Est-ce que, petit à petit, vous avez le sentiment d'arriver à les faire tomber?
Essentiellement, on le sait dès le début en Algérie. Vous savez, vous avez 22 ans, vous comprenez quels sont les murs qui vous enferment. C'est d'un côté l'impossibilité de circuler, de voyager, en même temps le culte des ancêtres, cette occupation du pays par une gérontocratie qui ne veut pas accepter la mort, donc accepter la transition et donc de transmettre le pouvoir au pays. Il y a ce conservatisme qui est là, qui est pesant, je veux dire. Et puis il y a ce rapport très pathologique à l'autre, à tout ce qui vient de l'extérieur, que ce soit la France en règle générale, parce que pour quasiment tous les Algériens, l'autre c'est le français, et ce rapport à l'étranger, au touriste, à celui qui visite le pays, qui veut le voir, qui veut le partager. Il y a ce culte de l'unanimisme en Algérie, par exemple. La différence n'est pas acceptée, elle est hérétique, elle est rejetée, elle est soupçonnée d'être une traîtrise aussi. Donc ces prisons, on les connaît dès le début. Et après, il y a des choix de vie. Soit on s'y soumet, soit on devient l'avocat de la prison, soit on s'enfuit, soit on prend une chaloupe, soit on écrit. Il y a une très belle phrase de Michel Tournier qui disait que dans une prison, certains voient les barreaux, d'autres la toiture. Et c'est un choix dans la vie, c'est-à-dire rendre un petit peu, plutôt vivre sa prison comme quelque chose qui vous protège.
Vous avez le sentiment que l'Algérie, c'est différent des autres pays arabes qui ne sont pas forcément non plus très, très ouverts ou très démocratiques. Il y a quelque chose de spécifique dans cet enfermement?
Oui, parce qu'il y a d'abord un culte un petit peu disons, disproportionné du passé, de l'histoire, mais pas tout le passé, pas paradoxalement, mais le passé immédiat, celui... il y a une fétichisation du récit national sur la... sur le... Il y a un rapport victimaire, mais aussi de confort par rapport à la mémoire de la colonisation. On s'y complaît, tout est de la faute de l'autre, on n'assume rien du tout. Donc c'est quand même assez différent. Il y a eu une histoire subie qui était très violente, et cette violence, quelque part, se reproduit aussi dans la vie quotidienne et dans le rapport, rapport à l'autre. Il y a cette mémoire de tout ce qui est venu de l'étranger n'est jamais venu en visiteur, mais en conquérant, que ce soit les Français, que ce soit les Arabes, que ce soit les Romains, les Espagnols, les Vandales, etc. Donc, chaque pays est différent. C'est pour ça que je déteste l'expression du monde arabe. Et le monde arabe n'existe pas. Il y a des pays dits arabes, il y a une culture spécifique à chaque pays, il y a des identités, etc. Donc c'est comme si je débarque chez vous, j'ai dit vous, tous les Occidentaux, tous les chrétiens.
Et on sent chez vous ce besoin par moment de faire table rase aussi du passé. Vous l'exprimiez dans une chronique récemment dans Le Point, en octobre dernier, le post-colonial m'étouffe, écriviez-vous, le post-colonial m'agace, me fatigue, m'a trompé sur moi, il fallait se libérer de la colonisation, il faut se libérer des explications post-coloniales exclusives. Et en même temps, vous faites depuis toujours œuvre de mémoire aussi d'une certaine manière, Kamel Daoud. Alors comment trouver l'équilibre entre ces deux position et non pas posture?
Écoutez, œuvre de mémoire, ce n'est pas vivre dans la mémoire, c'est différent. Des gens sont morts pour que moi je sois libre et vivant. Donc j'ai envie de jouir de cette vie. Des gens aussi sont morts pour que je sois le centre du monde, pour que moi aussi je puisse prendre parole, reprendre parole, m'exprimer. On ne peut pas partager l'humanité en niant toutes les différences, en refusant d'être en contact avec l'autre, d'accepter sa différence et ses cultures. Je suis un enfant de l'indépendance et je suis fatigué qu'on me demande à chaque fois des comptes rendus sur une période que je n'ai pas vécue. Qu'est-ce que la colonisation? Pourquoi vous écrivez en français? Quel est votre lien à la France? Etc. Mais en même temps, c'est un chemin de crête. Il faut à la fois dire que la mémoire, c'est quelque chose de nécessaire, ce que j'exprime par une petite métaphore en disant que les racines, c'est nécessaire, mais moi, je préfère les récoltes. Mais d'un autre côté, sortir du victimeur, sortir du confort. J'ai rencontré un universitaire à Oran, il y a quelques mois, qui appartenait à cette génération gosse des années 70, et qui m'expliquait, après un long silence, quand je lui posais la question « Pourquoi vous y tenez tant ?», qui me disait « C'est notre seule défense. C'est une sorte de digue contre autrui. Je voudrais qu'on sorte de la mémoire sans déni, sans rejeter, mais en même temps en assumant le droit de vie. » Donc, je n'ai pas à m'excuser sur mes choix, et j'ai à défendre ces choix-là et cette vie-là. Je suis un enfant des indépendances. Et ça, je le répète à chaque fois. Et c'est très difficile à faire admettre, parce que à la fois, on a des sortes de poids mort qui vous attire vers le passé, et de l'autre côté, une position difficile à distinguer par rapport à une sorte de clientélisme vis-à-vis de l'Occident, à une sorte d'entreprise de blanchiment de la mémoire en Occident, etc. Je ne veux ni blanchir, ni oublier, ni porter des cimetières sur le dos.
C'est tout simple. Ça fait un petit moment que vous êtes dans cette position, et on a l'impression que ça ne bouge pas tellement, alors que logiquement, on devrait dire qu'avec le temps, finalement, c'est votre position qui devrait triompher, logiquement.
Écoutez,
parce qu'on se débarrasse du passé, parce que d'autres générations arrivent et qu'on pense...
Je pense qu'il faut rester optimiste, parce que d'abord, il y a eu un temps de silence sur cette question-là. Et puis maintenant, il y a un temps de parole, il y a des mots qui sont dits, ça va mettre un peu de temps peut-être pour passer. Il faut qu'il y ait aussi des transmissions de générations, il faut qu'il y ait du temps. En Algérie, nous avons quelque chose, une formule très tragique et dramatique pour exprimer ça, pour le résumer, ça s'appelle la solution biologique. C'est-à-dire, il faut qu'on attende. Il faut qu'une génération passe. Il faut que cette parole-là aussi soit perçue comme étant une parole honnête, pas une parole pour se faire admettre en société occidentale ou pour se rendre visible. Donc il y a cette nécessité de temps.
Donc vous êtes en avance finalement.
Je ne pense pas. Non, je reste humble.
L'époque est-elle nostalgique pour vous, Kamel Daoud? À cette question, comment allons-nous? Vous avez une fois répondu, notre désir du monde est malade. Est-ce que nous vivons trop dans cette nostalgie d'un passé qui n'était peut-être en plus pas forcément meilleur?
Je pense que tous les radicalismes se construisent sur cette nostalgie-là, qui devient agressive par la suite. Tous les radicalismes, toutes les extrêmes droites du monde, toutes les peurs se construisent sur cette peur du présent et cette envie de revenir vers un passé qui n'existe pas. Il y a des points communs, un petit peu des signes de pathologie dans cette nostalgie quand elle devient maladie. C'est-à-dire on a envie de reconstruire un royaume qui n'a jamais existé, on a envie de revenir vers le statut hanté juste avant, on rêve de souche, on rêve de pureté, on rêve de remonter le temps, etc. Donc il y a des points communs, et pour moi c'est une maladie. Je pense que la grande question d'une vie pour l'individu, pour les groupes, c'est la question du temps. Qu'est-ce qu'il faut en faire? Et parfois on a peur du temps et donc on cherche à revenir vers le temps perdu.
Votre temps à vous ? C'est lequel ?
J'essaie de vivre l'instant. Bon, c'est pompeux de dire les choses ainsi. C'est difficile pour un Algérien de se débarrasser de l'histoire parce qu'elle jacasse dans votre tête, elle vous rattrape, elle vous parasite, elle vous investit, elle vous vole votre moment et elle possède la terre à votre place quelque part. Donc j'essaie un petit peu de faire taire cette voix un petit peu et d'écouter les générations qui arrivent.
Cette question de l'ouverture en 2010 déjà, et cet extrait de vos chroniques Mes Indépendances, vous évoquiez chez certains le regret de cette époque où la France et l'Algérie étaient dans le bilatéral pur et dur, en chien de faïence, mobilisant intellectuel, passion et amertume, traitant et vivant l'histoire dans un corps et pas comme un livre. Une époque où il y avait l'Algérie, la France, puis le reste du monde. Elle est là aussi la solution, ouvrir la relation à d'autres, l'enrichir, sans la complexifier pour autant.
Bien sûr. Vous savez, quand vous interrogez les Algériens, pour eux, l'Occident, c'est la France. Et c'est extraordinaire. On le découvre, même je l'ai découvert par des voyages. C'est-à-dire on arrive à sortir un petit peu de ce bilatéral et on découvre que le monde est beaucoup plus vaste et qu'il est enfermé un petit peu dans une sorte de conflit de couple qui n'en finit pas jusqu'à maintenant et qui alourdit. Donc je pense que ça peut nous enrichir en Algérie de comprendre que le reste du monde existe et qu'on peut le partager et partager avec ce reste du monde, je veux dire.
Vous avez suivi la dernière visite d'Emmanuel Macron à Alger, à la rencontre de la société civile et pas seulement de l'Algérie institutionnelle, avez-vous dit. Il a une démarche qui va dans ce sens d'ouverture, en privilégiant d'ailleurs pas uniquement dans la région l'Algérie. Il a cette démarche qui consiste à essayer de réconcilier aussi les mémoires pour préparer l'avenir, en y incluant la jeunesse, la société civile, pour vous.
Je pense que Macron, d'abord, c'est aussi un enfant des indépendances quelque part. C'est-à-dire il n'est pas porteur d'une histoire personnelle par rapport à la colonisation. Donc, il peut parler avec beaucoup plus de liberté et je le ressens et on le ressent. Donc, c'est quelqu'un qui est plus ou moins indépendant vis-à-vis de la question de la mémoire. Et ce que j'aime, c'est cette démarche pour dire qu'il faut assumer cette mémoire, mais il faut la dépasser. Pourquoi ? Parce que c'est une nécessité vitale pour l'Algérie, mais aussi pour la France. Tant que ce n'est pas réglé, elle devient un prétexte pour être réinvestie par des mécaniques de récupération. On va parler de la mémoire. Vous aurez des jeunes de 22 ans qui n'ont connu ni la guerre coloniale, ni les guerres d'indépendance, et qui vont vous parler encore et toujours, et prendre prétexte sur cette mémoire-là. Cette mémoire, il faut l'assumer et la dépasser. Je ne suis pas sûr que la solution serait de remuer cette mémoire, mais plutôt d'en faire une mémoire et de passer à autre chose.
C'est ce que veulent aussi les responsables algériens aujourd'hui ?
Ah bah absolument pas. C'est là où Macron se trompe. Il croit que la demande est celle d'excuses françaises vis-à-vis de la question de l'histoire, alors que non, la mémoire c'est une rente. Qu'est-ce que nous allons faire le jour où la France s'excusera ? Il faudra qu'on travaille. Et pour une génération, ce n'est pas évident.
Pour sortir peut-être de ce couple franco-algérien, dont on a du mal effectivement à sortir, Kamel Daoud, un mot du rapport entre l'Occident et plus généralement ce qu'on appelle l'Orient ou le monde arabe, le monde arabo-musulman, je ne sais pas comment on peut décrire cette entité. Comment vous sentez ces lignes de force ? Est-ce qu'il peut y avoir un moment donné où ce qui existe là va se transporter là et s'équilibrer finalement dans ce que vous avez appelé tout à l'heure le « je » et le « nous » ? Qu'il y a une possibilité de collaboration finalement pour trouver un point d'équilibre ?
Difficile. Les Nantes peuvent être barbares aussi, et sanguinaires. C'est-à-dire, le temps nous oblige à cohabiter, à trouver des champs de partage, et des champs de cohabitation et de vie et de survie. Mais je pense aussi que cela se fait par des guerres, par des élites, par des échanges, par des traductions et par le temps. Ce qui se passe un petit peu dans le monde dit arabe actuellement me fait peur. Parce que la seule force qui, pour le moment, organisée, qui a un but qui dépasse même la vie, ce sont les conservateurs islamistes. Donc, et de l'autre côté, en réaction, on va monter chez vous aussi des interlocuteurs qui justifient un petit peu ce discours et qui s'en nourrissent. Je parle des extrêmes de droite un petit peu partout en Occident. Et cette bipolarisation fait peur parce que personnellement, elle m'isole, elle nous isole de l'autre côté. Et elle isole aussi les bonnes volontés quelque part aussi chez vous. Je pense qu'on trouvera ce point d'équilibre dont vous parlez, mais à quel coût ?
Est-ce que la nouvelle circulation des idées va aider ou au contraire ? À l'heure des réseaux sociaux, Kamel Daoud, est-ce qu'on formule une opinion plus facilement avec une liberté nouvelle ou au contraire avec de nouvelles menaces ou des nouvelles contraintes qui se sont ajoutées pour vous ?
À la limite, les deux à la fois. Je suis un fervent des traductions. Je pense que chez vous, comme chez nous, il faut encourager absolument les traductions. Dans les deux sens, ce qui permettra à des gens chez vous de comprendre ce qui se passe de l'autre côté, mais dans le sens inverse. Je pense que les traductions, il faut les investir, il faut les financer, il faut les encourager un peu partout. C'est une question de salut.
Est-ce qu'il veut traduire quoi, par exemple ?
Des romans, des ouvrages, des essais, etc. Je travaille avec le New York Times, par exemple. Je trouve extraordinaire que chaque fois que je leur donne une chronique, ils la traduisent en arabe. pour voir le retour des opinions, ce qui ne se fait pas pour les grands journaux français qui ont une opinion et qui ont un vis-à-vis beaucoup plus proche que les Américains. Je pense que c'est une démarche qui est assez intéressante aussi. En même temps, il ne faut pas croire que le monde dit arabe est quelque part sous influence des élites francophones ou anglophones. Les islamistes avancent. Ils ont même mis sur les circuits de diffusion des idées, sur les réseaux, sur Internet, etc. Vous parlez d'Internet. Internet, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est comme l'invention de l'imprimerie. Ça fait exploser les libertés, le corps, la sexualité, l'érotisme, mais en même temps aussi, ça fait exploser les cercles, les récupérations, les dérives. Je le vis personnellement. J'ai écrit une chronique aujourd'hui en Algérie. Ça circule le lendemain en Allemagne ou ailleurs. Ça peut être modifié. On modifie le titre. Il y a une chronique qui circule beaucoup, qui a beaucoup circulé les derniers temps, avec un titre qui n'est pas de moi, qui s'appelle « La mauvaise foi absolue du musulman ». Donc, vous devinez un petit peu le coup pour moi aussi, j'habite en Algérie. Donc, tout ça pour vous dire que Internet, c'est comme l'imprimerie. La machine Gutenberg, je veux dire, ça apporte beaucoup plus de liberté, de fluidité dans la circulation des bonnes et des mauvaises idées. Internet a inventé les fake news, je veux dire. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi reprendre en main.
Est-ce que ça fait exploser la pensée, pour reprendre votre
terme ? Ça fait exploser la vitesse de circulation des idées et des fausses idées.
Est-ce que vous êtes du coup beaucoup plus prudent quand vous écrivez ? Ou c'est assez peine perdue ?
Non, j'ai essayé, mais ça me bloque. Donc, dès que je parle de la spontanéité dans l'écriture, donc il fallait faire un choix à la limite. C'est-à-dire, est-ce qu'il fallait se taire pour ne pas faire le jeu de X ou de Y, ou est-ce qu'il fallait parler et soutenir un petit peu des idées, des combats et des personnes ?
Comment ça se passe, votre hebdomadaire, votre chronique hebdomadaire, par exemple, au Point ? Elle vient toute seule comme ça, ou elle vous est directement inspirée par un fait d'actualité, ou c'est comme plutôt un essai que vous faites, que vous rédigez, comment vous la produisez, à partir de quoi ?
Écoutez, quand on est chroniqueur et quand on est obligé d'écrire une fois par semaine ou une fois par jour, on devient tricheur. Donc un petit peu on écoute, on voit, on regarde, on commence par écrire sur du blanc, c'est-à-dire à partir d'une phrase, un visage, un trait, une petite caricature, une bulle. On devient une sorte de chien renifleur qui cherche un petit peu à quoi s'accrocher, qu'est-ce qu'il faut marcher, etc. Donc pour le Point, c'est un exercice qui maintenant j'ai intégré dans ma vie, je veux dire, c'est un rythme aussi, la chronique, donc je peux réagir. Et généralement, j'ai une petite recette. Je me dis, quelle est la question de la semaine ? Quelle est la question que se pose la plupart des gens ?
Alors, quelle est la question de la semaine ?
je ne sais pas, pour la France. Et parfois, j'essaie un petit peu d'aller vers quelque chose d'autre, c'est-à-dire cette semaine-là plutôt, parce qu'il y a un décalage d'une semaine, j'ai écrit sur le vin. Autant que c'était sur l'interdit du vin qui n'est absolument pas visible à partir de France, où le vin il est là, il fait partie de votre corps, de votre quotidienneté, de l'autre côté c'est un enjeu. Et c'est toute une aventure de parler du vin, comment on cache les bouteilles le lendemain, comment on essaie de ne pas faire teinter les bouteilles quand on achète, comment on les enrobe dans des journaux, comment par exemple les fabricants de vin ne trouvent pas de nom. Il faut remonter à la période avant l'islam pour trouver des noms. Donc les noms, les vins s'appellent Saint-Augustin, Monica, etc. Donc vous voyez, c'est toute une aventure. Donc,
In vino veritas, c'était le terme de cette chronique de vous, Kamel Daoud, dans Le Point. Et c'est ça qui est vraiment passionnant avec vous, c'est que vous ne reniflez pas, et pour cause, au bas de votre porte, comme vous dites, vous regardez souvent d'Algérie la situation en France, et vous avez dit une fois, je crois que c'était en février dernier, au journal El Watan, j'ai voulu marquer mon indépendance vis-à-vis des sollicitations et des castings qu'on veut imposer à l'intellectuel du Sud, que l'on veut confiner dans la case dissident, militant en colère contre les siens, et qu'il soit impliqué dans le jeu et les clashs qui agitent l'Occident. C'est ça, être aussi un libre penseur ou un penseur qui réfléchit librement, refuser ses assignations, penser contre soi-même aussi, et regarder le monde de là où on est, mais avec des situations avec un regard décentré.
Absolument, je pense que c'est aussi ce qui intéresse des journaux comme le New York Times ou des magazines comme Le Point, c'est avoir quelqu'un qui est capable de regarder peut-être ce qui se passe en France, mais à partir de l'extérieur. C'est un contrepoids au nombrilisme que l'on vous reproche souvent. Donc ça, c'est d'un côté. Mais en même temps, pour quelqu'un comme moi, ça a été difficile de dégager ce chemin de crête, un petit peu entre les condamnations dans mon propre monde et les sollicitations pour incarner, pour endosser un casting, je veux dire, l'intellectuel qui vient du tiède, et pas du froid ou du chaud. Et donc, c'était très difficile d'exprimer une position d'indépendance. Mais j'ai fini par comprendre, c'est aussi une question de temps. Et on avance. Je pense que c'est une question qui se posait aussi pour les écrivains qui venaient du froid, siècle dernier, qui étaient là. Alors comment à la fois, je caricaturise à l'extrême, ne pas faire le jeu de l'impérialisme tout en dénonçant le stalinisme et le goulag, etc. Donc je pense que c'est une... c'est une question de survie pour l'écrivain. C'est ce qui faisait la différence entre Sartre et Camus, si on va jusqu'au bout. C'est quelqu'un qui a essayé toujours de sauver son corps, sa pensée, sa façon d'interroger le monde, et quelqu'un d'autre qui était dans les situations.
Vous êtes un esprit indépendant, là-bas en Algérie. Vous le seriez si vous étiez aussi en France ou dans un autre pays. Qu'est-ce que vous avez l'impression, qu'est-ce que vous critiqueriez de la même façon, finalement, peut-être que vous le faites aujourd'hui, si vous aviez à parler de ce qui se passe en Occident?
D'abord, le manque de réflexion sur le rapport à l'autre. Je pense que la question de l'altérité...
Là aussi, alors, c'est le même problème, finalement.
Oui, mais c'est le même problème, mais vu dans l'autre sens. Et en même temps, cette question de l'altérité, j'en fais le reproche aussi au mien, parce qu'on s'est tellement installé dans le post-colonial qu'on ne réfléchit pas le rejet de l'autre, mais on réfléchit le rejet de soi-même par l'autre. Donc, ça, je peux aussi pas le reprocher, mais j'aimerais y réfléchir si j'étais en Occident. Ce défaitisme, ce déclinisme, quelque part, et cette sorte de repli nombrilé sur soi. Il y a des acquis chez vous, mais ces acquis ne sont pas éternels. Il y a des choses à défendre encore et encore. Il y a des mots à redéfinir encore une fois. Et puis, cette sorte d'inconfort et de malaise que vous avez chez vous, c'est-à-dire en même temps la culpabilité par l'histoire ne mène pas à la lucidité, mais elle mène à la concession. Et cela me dérange un petit peu, parce que ce qui se passe chez nous, ma vision du salut, notre vision du salut, dépend aussi de ce qui se passe chez vous et vice-versa.
C'est-à-dire,
si on ne réfléchit pas avec lucidité d'un côté le post-colonial et de l'autre la mémoire, on n'arrivera pas à apaiser les choses pour que cet aspect des choses ne puisse plus servir ni à l'extrême droite ni aux radicaux islamistes.
Pourquoi vous parlez du salut ?
Je parle du salut parce que c'est une question du jour, c'est la question du moment. Comment sauver nos pays, comment sauver nos sociétés, comment sauver le rapport à l'autre, comment sauver le vivre ensemble.
Dans vos chroniques, pour Le Point, vous revendiquez, je le disais, ce regard décentré sur le monde fait d'aller-retour. Et c'est peut-être le pendant la question d'Antoine à l'instant. Comment vous avez pris conscience, à partir de quel moment, que même si on appartient tous à une même humanité, vous ne parlez pas du même endroit ?
Écoutez, vous venez au monde et on vous répète pendant 20 ans que vous êtes arabe, pendant 30 ans que vous êtes algérien, et puis très peu de temps que vous êtes un être humain. Donc j'essaie un petit peu d'inverser la tendance. Mais il ne me semble pas très bien comprendre votre question, mais c'est juste que je suis dans un pays où il y a des questions qui se posent, qui sont propres à mon pays, à ma géographie, mais aussi il y a des questions qui sont dont on cherche les réponses chez moi, mais aussi en France et en Occident. Donc j'essaie un petit peu d'écouter les autres, de voir ce qu'ils font, comment ils y répondent, et de réfléchir sur mon propre réel et sur les enjeux de ma propre vie chez moi.
Oui, c'était ça, grosso modo, la question, savoir quand vous vous étiez senti assigné d'une manière ou d'une autre au fait d'être un intellectuel du Sud ou un écrivain ou un journaliste algérien. Mais je reviens juste à cette plus-value Kamel Daoud, pour ceux qui vous lisent en France, qui vous a d'ailleurs été souvent reproché, peut-être avec l'exemple des fake news auxquels vous avez consacré l'une de vos chroniques dans Le Point. La ministre Françoise Nyssen a précisé les contours de la future loi dans les colonnes du JDD hier, obliger les plateformes à coopérer avec l'État, inclure une procédure de référé judiciaire. Vous l'avez évoqué en écrivant, ça y est, Macron vient de lancer le pavé. Vous comprenez qu'en France, on soit inquiet que l'exécutif, l'État, devienne peut-être l'arbitre de la bonne ou de la mauvaise nouvelle, du mensonge ou de la vérité ?
Ça, je le comprends, mais il faut bien un arbitre pour le match. Parce que c'est soit l'État qui le fait, ou les institutions que vous avez choisies qui font ce boulot, soit ce sont l'extrême droite qui décide, ou les radicaux de l'autre bord qui décident qu'est-ce que le vrai, qu'est-ce que le faux. Il faut bien que quelqu'un le fasse. Alors, pour le moment, il y a une mainmise des extrêmes sur le réseau Internet. C'est pour ça, d'ailleurs, je n'ai pas été surpris de voir, par exemple, que l'extrême droite ici en France et l'islamisme de l'autre côté n'acceptent pas, ne veulent pas, réagissent très durement à ces tentatives d'encadrer un petit peu ce champ-là et d'y installer de la loi, quelque part, l'arbitrage de la loi. Alors, soit l'arbitre est une institution que tout le monde a choisie, soit c'est quelqu'un que personne n'a choisi et qui va s'accaparer ce champ-là. Alors, je pense que ça doit être fait.
Exemple de décentrement du regard, et je vous cite dans cette chronique du Point, il faut être du sud du monde, par exemple, pour y voir combien les armées islamistes y ont envahi le net. Les fake news sont devenues une religion en soi, une puissance sur des populations en marge des institutions de scolarisation et d'information. Puisque la dictature ment, les Les fake news ont cette possibilité de se faire vérité, surtout dans les géographies de l'échec de la modernité, des théories du complot, de la sous-formation et du sous-savoir. Par inversion spectaculaire, les dictatures luttent rarement contre les fake news, mais contre les true news, les informations réelles qui échappent à leur contrôle. C'est donc ce risque qui fait peur au Nord, mais c'est ce risque qu'il faut prendre.
Exactement, parce qu'on est coincé entre propagande et fake news. Donc il faut dégager quelque chose qui puisse être de l'ordre de l'exactitude, à défaut de vérité.
Mais avant, on n'avait pas besoin de s'occuper de faire des lois pour les fake news. Ce qui se passe aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire éventuellement des lois? C'est parce que précisément, les intermédiations, ceux qui pouvaient servir d'arbitre de façon fonctionnelle, disparaissent aussi. Ce n'est pas uniquement une question d'extrême droite ou d'islamiste, c'est aussi une question de référence dans une société, d'instance, encore une fois, qui permettent de faire une médiation et qui finalement permettre aussi les arbitrages. Pourquoi est-ce que ce serait l'État qui devrait le faire fondamentalement?
Écoutez, je ne suis pas spécialiste de la question, mais à mon avis, je pense que nous sommes dans une époque où il y a changement de plateforme pour véhiculer l'information, pour véhiculer le loisir, etc. C'est une réinvention de l'imprimerie. Et quand on a inventé l'imprimerie, il fallait du temps pour qu'on invente aussi de la légitimité. Donc il fallait, cette légitimité était un petit peu malmenée parce qu'elle était sous coupe de l'Église à un certain moment, des monarchies, donc du pouvoir politique. Mais avec le temps, on a créé quand même de la légitimité, du credo, une sorte de quelque chose qui est à mi-chemin entre le catalogue et l'index au sens catholique de l'Église et du terme. Et cette autorité de validation a fini par être créée. Maintenant, vous lisez parce que c'est publié par telle maison d'édition, parce que tel bonhomme est quelqu'un qu'on lit, etc. Mais cette légitimité, cette crédibilité a mis du temps pour s'installer. Je pense qu'avec Internet, autant légiférer sur les fake news, autant vos réactions et les miennes, autant des résistances, autant cette prise d'otage d'Internet par les extrêmes un petit peu politiques dans toutes les géographies, je pense que tout ça, c'est un processus qui va nous faire aboutir un jour ou l'autre, et j'espère très vite, à la réinvention d'une sorte de légitimité, de credo et de crédibilité de l'information qui circule par Internet.
Vous pouvez le suivre sur le Facebook Live de France Culture, mais surtout sur notre antenne. Kamel Daoud, écrivain, est notre invité jusqu'à 13h30. Kamel Daoud, il y a eu bien sûr cette tribune polémique sur Cologne, vague d'agression collective. C'était ce qui s'était passé lors du nouvel an 2016. Vous aviez écrit le rapport à la femme et le nœud gordien, le second dans le monde d'Allah, après celui avec Dieu. La femme est niée, refusée, tuée, voilée, enfermée ou possédée. L'islamisme est un attentat contre le désir. Aujourd'hui, c'est toute la question du harcèlement et du désir qui se pose partout dans le monde, en réaction à la tribune des femmes sur la liberté d'importuner. Vous compariez ce désir de soi-disant d'être libre d'importuner à un droit de cuissage soft. Ce prétendu droit d'importuner défendu en Occident devient licence de harceler au Sud, où les femmes luttent pour avoir droit au choix. Une fois encore, décentrement du regard. Le féminisme, dites-vous, n'est pas une maladie, comme Leïla Slimani qui signait dans les colonnes de Libération une tribune choc, import, tunais. Écoutez ce qu'elle en disait.
Vous savez, je parlais justement avec Kamel Daoud, on se baladait dans Paris cet été et on regardait les quais de Seine, on regardait les jeunes couples, les garçons, les filles assis. On se disait ça, par exemple. Ça paraît banal, on regarde ça, on a l'impression que c'est tout à fait normal. Mais quand vous êtes au Maroc et que vous avez 17 ans, 18 ans, vous êtes avec une fille que vous tenez par la main et qu'un flic vient et vous dit ce que tu fais, t'as pas le droit. Bah, à 17 ans, à 18 ans, c'est extrêmement humiliant pour un jeune garçon, pour une jeune fille. Et puis en plus, ça vous met dans la tête que cette chose qui est très simple, qui est la tendresse, qui est l'amour, qui est pour moi un des plus grands bonheurs qu'on puisse vivre dans la vie, et bien que cette chose-là, elle est interdite, elle est sale, elle est pas bien. Et bien moi, je considère qu'il faut contrer ce discours extrêmement simpliste. Le vrai problème, en fait, c'est qu'on n'a pas de discours sur la sexualité. C'est qu'on nous dit « il faut vous taire ». Il n'y a aucun discours à avoir. Parler d'éducation sexuelle, c'est en réalité pousser les gens à avoir une sexualité. Mais tout ça, c'est complètement faux. Et il faut absolument que nous, on soit capable de répondre à ceux dont le seul discours, qui est très simple et qui donc peut être entendu par la majorité, c'est de dire « une femme qui n'est pas vierge est une prostituée ». Non, c'est plus compliqué que ça.
Comment produire et développer, non pas un discours, mais une parole qui puisse être entendue de tous et par tous et qui nous réunisse aussi autour de cette question de l'égalité homme-femme, Kamel Daoud? Comment défendre le féminin et guérir le masculin?
Disons que ce n'est pas la même guerre au Sud comme au Nord, ce que disait Leïla Slimani. Donc, Ce que a fait, par exemple, Laïla, et ce que je trouve admirable, c'est d'avoir traduit son ouvrage, de l'avoir publié en bande dessinée aussi. Donc, pour contrer un petit peu le discours, je disais encore une fois que les islamistes, dans nos géographies, ont la même mise sur la circulation des idées. Ils ont beaucoup plus d'argent, ils ont des réseaux de diffusion beaucoup plus puissants, ils sont mécénés, entre guillemets, par des monarchies qui ont beaucoup d'argent, ils ont un réseau de mosquées comme pas possible. Et puis, l'histoire, entre guillemets, ou la propagande sur l'histoire, joue pour eux. Quand quelqu'un arrive, débarque au Maroc, en Tunisie, en Algérie, pour défendre le droit à l'orgasme, c'est une valeur dite occidentale, donc celui qui la défend devient un agent de l'Occident. Donc on lui fait perdre sa légitimité et la légitimité de prendre parole et de défendre un droit humain. L'orgasme, ce n'est pas une valeur occidentale, c'est un droit humain. Le corps, le plaisir, la liberté, la jouissance ne sont pas des valeurs occidentales. Et je pense que la première chose à faire chez nous, de l'autre côté, c'est justement de rapatrier l'humain dans nos discours et pour dire qu'on ne défend pas un Occident. Je ne cherche pas à être un occidental, je cherche à être mieux et meilleur. Donc je défends ces droits. Voilà. Je pense qu'il faut une prise de parole, une sorte de position où on n'est pas dans la culpabilité, ce que dit Leïla Slimani, parce que la sexualité, elle est piégée entre deux choses dans notre monde, le péché ou le délit. La police pourchasse les couples au nom d'une sorte de confusion entre péché et délit. Donc je pense qu'il faut démonopoliser d'abord la question du corps, de l'orgasme, de la sexualité qui est tombée sous monopole du discours conservateur. De l'autre côté. Donc je pense qu'il faut reprendre possession de ces concepts-là pour en parler librement et avec légitimité et avec force et puissance.
Et du côté de l'Occident, sur la question ?
Sur la question, je pense que maintenant la parole est plus ou moins débridée et j'en suis heureux. J'avais écrit un texte pour Le Point où je disais que si dans certaines géographies la femme est voilée, de l'autre côté la femme est voilée par son corps. Et je trouve ça extraordinaire que la parole puisse se débrider. Bon, il y aura des réactions, il y aura des résistances, et c'est la preuve de la bonne santé du débat quelque part. Mais je pense aussi qu'il y a beaucoup à faire en Occident sur le corps, sur le désir. J'aime plus cette expression de droit de femme, parce qu'à la limite, elle limite le tout à une sorte de militantisme sur des positions. Non, parlons du droit au corps.
Un peu de silence, beaucoup de malaise, de l'embarras et des théories du complot en vrac. C'est ce qu'on oppose comme opinion au Sud, dans le monde dit musulman, à l'affaire Ramadan. Ça, c'est ce que vous écriviez quand les premières révélations, paroles des femmes se sont libérées autour de cette affaire Tariq Ramadan, qui depuis a été mise en examen et incarcérée pour viol. C'était vendredi à Paris. Qu'est-ce qu'ils s'en dit aujourd'hui ?
Écoutez, Tariq Ramadan, pour moi, reste un produit de l'Occident. C'est quelqu'un qui fonctionne à l'intérieur d'une mécanique occidentale. Dans mon pays ou dans d'autres pays des parages, il n'est pas la star des prêches parce que cette position de parole, elle est occupée par des prêcheurs dans des mosquées, etc. Donc on n'est plus dans la même configuration. Mais en même temps, tragiquement, son cynisme, je pense que cette affaire aura un impact sur la perception que l'on se fait sur l'islam, sur les représentations sur l'islam, sur le discours au nom de l'islam, etc. Donc je pense que c'est une affaire qui aura beaucoup de conséquences.
Alors, on s'interrogeait aujourd'hui, Kamel Daoud, sur votre grille de lecture du monde. On l'aura compris, ligne de crête. On en reste surtout à ça.
C'est une ligne d'inconfort qui nous oblige à être réveillés, éveillés.
Merci beaucoup, Kamel Daoud, d'être venu autour de cette grande table. Chaque jour, quand une grande table se referme, elle se rouvre immédiatement sur franceculture.fr, où vous pouvez vous abonner au podcast de l'émission, nous écouter, mais également nous écrire. À la programmation préparation, Claire Maillot et Chloé Leblond, Clémence Marie et Henri Leblanc, avec l'aide précieuse de Bertie Bourdon et de Maxime Morin. À la réalisation aujourd'hui, Charles Autroux, avec Jean Guilhemège. Très bel après-midi à tous, et rendez-vous demain.